Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
Olivier Grenouillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et vous dirigez aux éditions du Cerf une nouvelle collection, la Bibliothèque à remonter le temps. C'est à destination des adolescents au départ. Hein. Pourquoi avez-vous envie de faire une collection pour les adolescents ?
Bien, tout d'abord parce que je souhaitais donner à lire à mes enfants des livres qui les prennent au sérieux, qui soient ni ludiques ni romancés et qui ne leur disent pas finalement ce qu'ils doivent penser, mais des livres qui leur donnent matière à réflexion. Et je cherchais finalement et je n'ai pas trouvé. Oui, il y a beaucoup de choses pour les petits de 6 à 10 ans.
Vous parlez des livres d'histoire.
Voilà, livres d'histoire. Hein, il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi entre le ludique et le scolaire. Et puis après, pour les adolescents et les adultes, on a soit des ouvrages, je dirais, un peu pointus, pour ceux qui s'intéressent déjà à un sujet, soit des livres d'histoire un peu romancés. Mais l'entre-deux, l'histoire pour tous, je ne l'ai pas trouvé. Et ça, c'est le constat. Et puis, j'avais un désir depuis toujours d'écrire pour mes enfants. Et donc, je me suis dit, voilà, je n'ai pas trouvé ce que je voulais pour eux. Eh bien, je vais essayer de l'écrire pour eux. Voilà. Alors, et c'est le début de la collection.
Vous avez écrit le livre consacré au néolithique. On va en parler, bien entendu, parce que c'est une période qui me passionne. Mais il y a aussi bien les Vikings. Sont des sujets. Il y a des sujets de prédilection pour les adolescents, j'ai l'impression.
Alors, c'est l'histoire pour tous. C'est tous les champs de l'histoire. Donc, les quatre premiers, c'est le néolithique de Gaulle, les Vikings et puis les dieux de l'Égypte antique. Mais on aura ensuite aussi bien les Indiens d'Amérique que la guerre froide ou les empires d'Afrique médiévale ou les samouraïs.
Ça m'a rappelé la collection Mythes et Légendes que je lisais assidûment quand j'étais adolescent moi-même. Mm-hmm. Et il y avait les contes et légendes à la fois de la Rome antique, de la Grèce, des Indiens d'Amérique, des Vikings. De la même manière, il n'y avait pas encore le néolithique parce qu'on ne s'y intéressait pas à ce moment-là. Mais j'ai l'impression toujours que ce sont les mêmes sujet qui passionne les adolescents.
Oui, mais j'insiste, hein, cette bibliothèque a remonté le temps, en gros, c'est de 14 à 99 ans, parce qu'une fois que le premier prototype a été écrit, on l'a fait lire à des adultes, à des professeurs notamment, qui nous ont dit, bah, écoutez, ça me convient tout à fait. Et donc, initialement, c'est pensé à partir de 14 ans, et en fait, c'est pour tous à partir de 14 ans.
Alors c'est vrai que le livre que vous avez écrit sur le néolithique, qui est une période passionnante, hein, sur laquelle on en apprend de plus en plus, ben, il peut intéresser tout le monde. En tout cas, moi, il m'a passionné. Longtemps, les livres d'histoire à l'école passaient directement de l'âge des cavernes au village gaulois. On faisait l'impasse sur 10 000 ans, hein, qui ont pourtant été décisifs. C'est ça, le néolithique.
Oui, décisif, parce que l'homme invente l'élevage, l'agriculture, bien sûr. L'homme se sédentarise, il invente aussi la roue, la poterie, la pierre polie. C'est l'époque des premières nécropoles, des premiers temples. Bref, l'homme entre dans l'histoire avant même l'invention de l'écriture, et c'est passionnant. Et ce livre illustre finalement ce que l'on souhaite dans la collection, à savoir des livres qui... Il y a une ambition intellectuelle, si vous voulez. Des livres qui donnent à savoir... On a l'essentiel sur le néolithique, des livres qui donnent aussi à comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'enfile pas simplement des faits comme des perles sur un collier, mais on est là pour finalement essayer de donner du sens aux choses. Et pour le néolithique, la grande question qui se pose, c'est cette entrée finalement dans l'histoire avant l'écriture, se fait-elle pour le plus grand bien de l'humanité, puisque l'homme, grâce à tout cela, l'élevage, l'agriculture, il apprend à produire ses propres ressources, il devient indépendant. Où est-ce que l'homme entre dans l'histoire pour son malheur, puisqu'il commence à maîtriser la nature et après, plus tard, à la détruire? Voilà la grande question. Et chaque ouvrage, je dirais, aborde une grande question. C'est une histoire à problème où il y a des questions à résoudre. Voilà.
Mais cette question, vous ne pouvez pas la résoudre, puisqu'on se la pose encore aujourd'hui, enfin plus aujourd'hui que jamais d'ailleurs.
Alors on ne peut pas tout à fait la résoudre, et dans le chapitre 9, et comme dans chaque ouvrage, le dernier chapitre du livre est consacré à une résonance, si vous voulez, entre passé et présent. Une fois qu'on a vu les faits, qu'on a compris, on peut mettre en perspective. Et dans ce chapitre 9, pour le néolithique, on voit finalement que notre façon de voir cette période a changé en fonction de la manière de voir le progrès. Jusqu'aux années 1970, à peu près, le progrès, c'était merveilleux. Et donc, le néolithique était perçu comme le moment où des ancêtres chasseurs-cueilleurs un peu sauvages entraient dans la civilisation. Et puis, à partir des années 70, le progrès étant... d'ailleurs, on se demande si le progrès est vraiment irréversible, et puis on se demande, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Et on se met à critiquer le progrès, et à ce moment-là, on se met à critiquer les hommes du néolithique et à idéaliser les chasseurs-cueilleurs d'avant qui auraient vécu d'amour et d'eau fraîche.
Voilà. Et les hommes du néolithique étant les premiers responsables du réchauffement climatique. C'est un peu aussi comme ça qu'on les voit aujourd'hui.
C'est comme ça qu'on peut les qualifier, ou ils seraient responsables finalement de la surcharge pondérale de beaucoup de monde aujourd'hui, ce qui évidemment est tout à fait faux. Mais vous voyez, dans chaque ouvrage de collection, le dernier chapitre fait un rapport entre le passé et le présent. Voilà.
On continue de parler de la révolution du néolithique avec Olivier Grenouillot, juste après une pause. Nous sommes ce matin avec l'historien Olivier Grenouillot qui sort une nouvelle collection, La bibliothèque a remonté le temps, aux éditions du Cerf, à destination des adolescents au départ, mais comme il s'agit de livres clairs et sérieux, ça intéresse tout le monde. Votre premier livre, celui que vous avez écrit, Olivier Grenouillot, concerne le néolithique. Il y a une question qu'on peut se poser, et vous la posez dans ce livre, c'est pourquoi à ce moment-là? Parce que en relativement peu de temps, tout change au néolithique, alors que rien n'a changé, ou presque, auparavant.
Alors, pas tout à fait. En relativement peu de temps, il est vrai, mais suivant les régions, différentes régions du monde, les principales inventions du néolithique, l'agriculture et l'élevage, ça prend entre 1000 et 5000 ans. Et donc, à l'échelle des hommes de l'époque, on ne s'aperçoit pas véritablement des changements. Par contre, ces petits pas pour les hommes de l'époque sont un grand pas pour l'humanité, puisque là, ça entraîne une accumulation d'inventions et on entre dans une autre époque.
Vous dites que ça se passe lentement, 30 à 50 kilomètres par génération, en fait.
Là, c'est pour
l'agriculture et l'élevage.
C'est pour l'avancée, finalement, de la néolithisation en Europe. Voilà, à peu près, oui, 30 kilomètres par génération.
Oui, parce que ça a débuté au Proche-Orient, en Chine aussi. Hein, on invente l'agriculture, on invente l'élevage, et c'est importé en Europe.
Tout à fait. Le néolithique est importé en Europe, soit donc par l'Est, par les Balkans, soit par la Méditerranée, ou bien par l'Afrique du Nord et à nouveau la Méditerranée. Et la France est à la jonction de ces deux courants, finalement. Hein. Ces inventions arrivent de l'extérieur en Europe, mais une fois qu'elles sont en Europe, je dirais que la rapidité de l'évolution est assez remarquable, beaucoup plus même que dans tous les autres continents. Et à la fin de l'époque néolithique, l'Europe devient même un foyer indépendant d'invention, avec l'invention notamment
de la roue,
des premiers chariots et de la métallurgie. Oui.
Bien sûr. Mais vous m'avez pas dit pourquoi à ce moment-là, pendant des milliers, des centaines de milliers d'années, on a l'impression que rien n'a bougé vraiment, et puis tout à coup, tout se met à bouger.
Alors, des choses ont commencé à bouger dans la petite période qui précède le mésolithique, entre le paléolithique et le néolithique, où on invente le propulseur, l'aiguille à chat, et puis les dégratoires du microlithe.
On commence à coudre ses vêtements, effectivement.
Voilà. Mais c'est vrai que pendant 30 000 ans, on n'invente rien d'autre. Et puis après, il y a beaucoup plus d'inventions. Et ces inventions, finalement, encore une fois, sont cumulatives. Pourquoi ?
Le climat ?
Les historiens, les préhistoriens ne sont pas tous d'accord. Certains pensent que c'est l'homme qui est déjà, finalement, a choisi. Par exemple, le nombre des hommes aurait augmenté, il aurait fallu trouver de quoi les nourrir. Mais l'explication la plus probable, c'est le changement du climat. À partir du Holocène, 12 000 ans avant aujourd'hui, le climat se réchauffe et donc dans certaines régions du monde, les conditions sont plus favorables pour que des évolutions se mettent en place. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas immédiat. Par exemple, on a dans plusieurs régions du monde des chasseurs-cueilleurs qui connaissent la poterie, alors que dans d'autres régions du monde, touchées par la néolithisation, on peut inventer l'élevage, mais on peut ne pas avoir beaucoup de poterie. Vous voyez, en fait, il y a très peu de foyers de néolithisation à l'échelle du monde, à peine une dizaine. Et dans chaque région du monde, on évolue à sa manière. Il n'y a pas une voie de la néolithisation, il y a des voies différentes.
Et au moment où on invente l'agriculture, puis l'élevage, ça va permettre à la population humaine d'augmenter. Vous disiez peut-être que certains historiens se demandent si c'est pas parce que la population humaine avait déjà augmenté qu'on a inventé l'agriculture pour mieux la nourrir. Mais il peut sembler logique aussi que ce soit l'inverse. C'est parce qu'on a inventé l'agriculture et l'élevage que tout à coup la population humaine s'est mise à grossir, et au fond c'est la première grande révolution démographique de l'histoire, le néolithique.
Tout à fait, on passe de en gros 5 millions d'habitants, 80 à 100 millions d'habitants.
Sur toute la Terre.
En quelques milliers d'années, hein, tout à fait. En partie parce que l'agriculture et l'élevage permettent de stocker stocker des ressources. Parce qu'aussi ça permet, on a calculé que la durée entre deux naissances pour une femme chasseur-cueilleur était beaucoup plus longue que pour une femme sédentaire et
agricultrice. Il fallait qu'elle marche, voilà, et donc on ne pouvait pas faire d'enfant tant qu'il ne pouvait pas marcher par lui-même, parce qu'on était obligé de le porter. Après, on va faire autant d'enfants qu'on veut pour qu'il puisse travailler au champ.
Oui, après, c'est aussi... je dirais, la mortalité, on a peu d'informations, mais elle est sans doute très forte, puisqu'elle est très forte dans les périodes suivantes, parce qu'on a beau inventer l'agriculture et l'élevage, pendant des milliers d'années ensuite, les populations paysannes du monde entier vivent difficilement. Hein. Toutes ces populations connaissent la soudure, le moment entre la récolte passée dont on a épuisé la réserve et la nouvelle récolte, et les famines sont fréquentes. Mais néanmoins, on peut stocker évidemment davantage de ressources que ne le faisaient les chasseurs-cueilleurs.
Olivier Grenouillot, c'est pendant le néolithique qu'on va donc se sédentariser. On construit des maisons, des villages, puis des villes. C'est la naissance de la propriété privée. On fonde des familles, on prie des dieux, on a des prêtres, on a des chefs. On va bâtir les premiers temples, mais aussi les premières nécropoles. C'est une période qui est totalement passionnante.
Oui, tout se met en place. Tout se met en place, encore une fois, bien avant l'invention de l'écriture, qui est le moment, classique pour l'entrée dans l'histoire, mais à mon sens, on entre dans l'histoire avec le néolithique.
Vous dites aussi que c'est le moment où on commence à accumuler des objets de plus en plus variés, des objets du quotidien et des objets de prestige.
Tout à fait. Le chasseur-cueilleur, bon, voyageait et il ne pouvait pas emporter grand-chose. Dès lors que l'on se sédentarise, on peut stocker. Et on a quantité d'objets du quotidien pour faire cuire les aliments. On a trouvé en Écosse, il y a quelques années, qu'il y avait des récipients spécifiques, par exemple, pour la cuisine. On commençait à faire cuire les légumes dans un récipient, puis là, à la fin, on mélangeait avec la viande qui avait cuit dans un autre récipient. Voilà. Alors, tout le monde n'avait pas la batterie cuisine développée, mais voilà. La gastronomie commence aussi à cette époque, et puis il y a tous les instruments du quotidien pour travailler, pour se vêtir, et puis il y a aussi, je dirais, des objets de prestige, hein, avec.
Il y a des riches.
Tout à fait.
Hein, il y a des riches et il y a des pauvres.
Qui circulent sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, hein, et donc qui ont une très 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 forte valeur.
Il y a de la concurrence, donc il y a des inégalités, il y a des riches et des pauvres, il y a les premiers esclaves, il y a les premières guerres, il y a des dominants et il y a des dominés. Pour reprendre des termes qu'on utilise aujourd'hui, qui n'avaient pas de sens autrefois.
Oui, alors, sur les premières guerres, là, il y a des débats. Est-ce que la guerre est inventée au néolithique ou est-ce qu'elle a commencé avant ? On a, bien avant le néolithique, au Kenya, une soixantaine de personnes qui ont été exterminées, hommes, femmes et enfants. Ça correspond à une zone, finalement, qui peut être convoitée, une zone près d'une rivière, et on a d'autres exemples comme cela avant le néolithique. Donc, peut-on parler de guerre ou pas ? Enfin, tout dépend de la manière dont on définit la guerre, je le développe longuement dans le livre, mais à mon sens, la violence, voire la violence guerrière, existe avant. Mais cela se renforce très nettement au néolithique. Période où apparaît aussi l'esclavage.
Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tellement au néolithique alors que pendant très longtemps on l'a boudé? Je rappelais, moi quand j'étais enfant, mon livre d'histoire passait directement des cavernes aux villages gaulois. On faisait l'impasse sur le néolithique. On a découvert tout à coup toutes sortes d'informations sur cette période?
Pas forcément, je dirais qu'on avait des informations, mais c'est vrai que parlons de la préhistoire en général. Agra de Lascaux a découvert en 1940, et donc le néolithique aussi. Les recherches, elles ont beaucoup progressé depuis les années 60, 70 et 80. Et donc on a plus d'informations. Et puis, comme je disais tout à l'heure, notre regard sur le progrès fait que l'on s'intéresse davantage à ces périodes, hein, en fonction de ce que l'on pense de ce progrès.
Merci Olivier Grenouillot. Votre nouvelle collection s'intitule « La bibliothèque a remonté le temps ». C'est paru aux éditions du Cerf. On vient de parler du néolithique, mais il y a aussi le livre consacré aux Vikings, celui au général de Gaulle. Et le quatrième, c'est
« Les dieux de l'Égypte antique ». Alors l'objectif, c'est que chacun puisse s'élever par le savoir. Et pour ça, il faut rendre ce savoir, je dirais, agréable. Ce sont de beaux livres qu'on peut toucher, feuilleter, papier glacé, et puis des livres surtout accessibles. Il faut que cette culture soit accessible. Et donc, on a des chapitres courts, rythmés, pas de lexique. C'est un élément symbolique, parce que quand on est lexique, c'est qu'on considère que la lecture ne donne pas tout, hein, qu'il faut définir spécialement les termes dans un endroit précis. Il n'y a pas lexique parce que tout doit être accessible au lecteur, quel qu'il soit.
Merci Olivier Grenouillot.
Merci.